Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Installé au cœur de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, l'Institut Imagine est le plus grand pôle européen de recherche et de soins ayant pour vocation de comprendre et de guérir les maladies génétiques. On estime qu'il existe 9000 maladies génétiques. Elles touchent 3 millions de personnes en France, 35 millions en Europe, parmi lesquelles d'ailleurs un grand nombre d'enfants. Ce sont des maladies qui se déclarent le plus souvent pendant l'enfance. Ces maladies génétiques rares ne sont donc pas si rares que cela. Leur étude permet aussi de comprendre des maladies plus répandues comme l'asthme, le psoriasis ou encore l'eczéma. D'ailleurs, dans le monde, un tiers des nouveau-nés admis en soins intensifs souffrent d'une maladie génétique. Cet institut Imagine réunit 400 chercheurs, 25 laboratoires, plus de 400 professionnels de santé. Alors, un an après son ouverture, quelles sont les avancées? On en parle avec le professeur Alain Fischer, qui est directeur de cet institut Imagine, pédiatre immunologiste. Il est l'auteur du premier succès mondial d'une thérapie génique sur des déficits immunitaires sévères, ce qu'on a appelé les bébés bulles. Avec nous également le professeur Arnold Munich, qui est cofondateur de cet institut Imagine, directeur du département génétique du CHU Necker Enfants Malades. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. En fin d'émission, on parlera d'une épidémie de rougeole dans le Katanga en République démocratique du Congo et nous retrouverons, comme tous les lundis, la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
RFI.
Professeur Alain Fischer et professeur Arnold Munich, bonjour. Merci vraiment à tous les deux d'être là en direct pour nous parler de cet institut de recherche assez incroyable. On va aussi comprendre comment ça concerne les gens dans la vie quotidienne. Quelles sont d'ailleurs les maladies génétiques les plus fréquentes, professeur Arnold Munich?
Les maladies les plus fréquentes, ça dépend de quelle région de France on parle et ça dépend de quelle région du monde on parle. Aujourd'hui, en Île-de-France, vous serez peut-être surprise, mais la maladie génétique la plus fréquente en Île-de-France, c'est la drépanocytose. En 2014, il y a eu 210 bébés qui ont été dépistés avec la drépanocytose. Dans le même temps, il y avait 13 mucoviscidoses. En région Île-de-France, 15 fois plus de drépanocytose que de mucoviscidose.
Quelles sont les autres maladies génétiques? Quand on parle de maladies génétiques, bon, d'accord, vous avez parlé drépanocytose, mucoviscidose, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maladies?
Il y a un petit nombre de maladies fréquentes, et puis un très grand nombre de maladies rares. Maintenant qu'on regarde dans le génome, qu'on scrute le génome dans les yeux, on s'aperçoit que chaque enfant est différent. Ce qui est extraordinaire avec les progrès que nous permettent de réaliser l'Institut Imagine, c'est qu'en réalité, chacun de nos enfants est unique. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est unique, y compris dans sa maladie. Nos enfants sont uniques, on le sait tous. Nos enfants, ils sont tous uniques pour nous. Mais ils sont aussi uniques dans leur maladie. C'est-à-dire que on a un nombre immense de maladies individuellement presque uniques.
Mais que vous classez finalement pour qu'on comprenne quels organes ça peut toucher.
Je dirais trois paquets. Je mettrais trois paquets. Un groupe de patients qui ont des maladies infectieuses d'origine génétique ou des maladies du sang d'origine génétique.
Sang, donc la drépanocytose.
Donc la drépanocytose. Je dirais que c'est le domaine où les progrès sont les plus spectaculaires en termes de compréhension et de traitement. Je pense qu'on en reparlera. Il y a un deuxième groupe qui est très nombreux quantitativement, c'est toutes les maladies du système nerveux. Les autismes, les épilepsies, les retards mentaux, toutes les maladies du cerveau. Et le troisième paquet, je dirais, c'est les maladies du développement, la fabrication du tronc, des membres, des extrémités, les surdités, les malvoyants, etc. Trois gros paquets.
Professeur Alain Fischer, on parle de maladies rares, de maladies génétiques rares, puis quand on voit le nombre de gens que ça concerne, c'est pas si rare que ça.
Eh oui, parce que l'addition de milliers de maladies, vous avez évoqué ce chiffre, même si la plupart d'entre elles concernent qu'un tout petit nombre de malades, enfants ou adultes, l'addition finit par faire un grand nombre. Et donc, c'est 2-3% de la population qui est affectée, avec des problèmes différents, des handicaps différents, des risques vitaux distincts. Mais 2-3% de la population, ça fait beaucoup de monde dans tous les pays du monde. Donc, en soi, ces maladies génétiques, malgré leur extraordinaire hétérogénéité, sont un problème de santé publique.
C'est ça, alors qu'on a l'impression que ça concerne que quelques personnes. D'ailleurs, les recherches que vous menez ne concernent que quelques personnes. On a dû vous demander de temps en temps et vous dire, mais est-ce que c'est bien rentable de mettre autant d'énergie pour si peu de personnes?
Absolument, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que ces maladies génétiques sont, entre guillemets, relativement simples à comprendre, parce que leur déterminisme, en première approximation, est lié à une anomalie unique quelque part dans notre génome. Donc par rapport à des maladies beaucoup plus complexes, vous avez évoqué l'asthme tout à l'heure, ou certains cancers, etc., où les causes sont multiples et difficiles à déterminer. Donc c'est une fraction de la médecine où l'action de recherche est relativement plus aisée. Donc c'est logique de faire ce que l'on est d'abord capable de faire. Et la seconde bonne raison, je crois, est le fait que, au-delà de pouvoir diagnostiquer et de temps en temps soulager ces patients atteints de maladies rares, c'est aussi le fait que certaines de ces maladies peuvent servir, entre guillemets, le mot est pas très beau, mais on peut le comprendre, de modèle, pour mieux saisir des pathologies plus communes. Il arrive que
l'expression... Vous avez un exemple à nous donner?
Oui, par exemple, une maladie inflammatoire très très rare, complexe, qui a un nom qui s'appelle 5A, est une maladie épouvantable qui touche quelques dizaines de malades dans le monde et qui font qu'ils ont une inflammation chronique de tout le corps. Lorsque le mécanisme de cette maladie a été compris, qui est dû à l'excès d'une substance inflammatoire dans le corps de ces patients, on a compris que si on neutralisait cette substance, d'une part on bénéficiait à ces dizaines de malades, on leur changeait littéralement la vie, mais aussi on a compris que le même médicament pouvait être utile pour traiter des maladies inflammatoires complexes. Donc le rêve, c'est de pouvoir répéter cela des dizaines et des centaines de fois.
Mais ça prend du temps, on le comprend.
Ça prend des années.
Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes auteur du premier succès mondial d'une thérapie génique sur des déficits immunitaires sévères, ces bébés bulles. On en est où des recherches là-dessus? Justement, en quoi ça peut servir à d'autres?
Donc c'est une longue histoire qui a débuté il y a très nombreuses années, qui implique beaucoup de monde. Ce ne sont pas des affaires individuelles. Beaucoup de médecins, de chercheurs très compétents sont impliqués. Aujourd'hui, plusieurs formes de déficience sévère du système immunitaire peuvent être traitées ou sont en train d'être traitées, avec un recul donc qui, par rapport aux premières tentatives, atteint maintenant 16 ans. Et évidemment, le point important, c'est qu'au-delà de ces exemples sur des pathologies extrêmement rares, il y a aujourd'hui des efforts de recherche très importants qui impliquent notamment des gens de l'Institut Imagine. On peut citer le nom de Madame Cavazzi, Marina Cavazzana.
On a déjà reçu dans l'émission d'ailleurs.
Très bien. Qui intéresse des maladies toujours du système sanguin, comme les maladies de l'hémoglobine, la thalassémie et la drépanocytose, mais aussi d'autres maladies. Et donc progressivement, le champ d'investigation de cette approche thérapeutique, qui n'est jamais qu'une parmi d'autres, mais néanmoins qui est nouvelle, s'étend à d'autres maladies génétiques, du sang d'abord, mais aussi dans une certaine mesure d'autres maladies, les maladies génétiques de l'œil par exemple, ou l'hémophilie, où il y a eu des progrès importants qui ont été faits en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Professeur Arnold Münnich, un des grands problèmes dans ces maladies génétiques rares, c'est la question du diagnostic. Très souvent, les parents vont de médecin en médecin avant qu'un diagnostic ne soit posé. Et on n'en pose pas toujours un, d'ailleurs.
C'est d'autant plus douloureux, et vous avez d'autant plus raison, que techniquement, c'est possible. Donc, on est devant un hiatus, devant un grand écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est économiquement ou...
Et ce qui est techniquement possible, c'est quoi donc?
C'est pratiquement de dépister toutes les maladies. Et on connaît un très grand nombre de gènes responsables de tant de maladies. Vous en avez cité quelques-unes aujourd'hui. Donc techniquement, on saurait le faire. Mais le défi, il est plus technique, il est économique. C'est comment on fait pour passer du laboratoire de recherche qui a conçu et réalisé ces tests à l'application pratique. C'est ça le vrai défi. Et nous, à Imagine, on voudrait vraiment essayer de contribuer à surmonter ce hiatus. Parce qu'on n'est pas un institut égoïste, c'est pas une tour d'ivoire réservée à quelques privilégiés. Notre question, c'est effectivement de partager ce qu'on a eu la chance de recevoir. On ne veut pas garder ce qu'on a reçu, on veut partager ce qu'on a reçu et ce qu'on a créé. Et dans le domaine du diagnostic, justement, créer des outils accessibles dans le cadre d'une médecine plus solidaire, ça fait partie du défi. Et bien, il y a un vrai problème, il y a un vrai défi.
Et de façon très concrète, ça veut dire quoi?
Quand
vous avez un patient en face de vous dont c'est compliqué, il y a certains diagnostics de maladies rares qui sont entre guillemets relativement faciles, et il y en a d'autres où vous savez pas comment, ça veut dire quoi, un séquençage du génome?
Ça veut dire que à l'hôpital, dans le cadre de les prestations qui sont couvertes par la sécurité sociale, l'hôpital d'aujourd'hui, que ça soit à Paris, même à Necker, et dans d'autres grandes villes de France, on fait un petit nombre de tests. Une fois que ces tests sont réalisés, l'hôpital public ne sait plus aller plus loin. Ça s'arrête. L'histoire s'arrête là. Et les commence la galère, l'errance diagnostique dont vous parliez. Eh bien, c'est très difficile d'accepter, quand on est dans un institut, qu'il y a des enfants qui sont en bas, qui n'auront jamais de diagnostic, parce que nous autres, on n'a pas été capables de monter un pont entre la recherche et son application pratique. C'est que il n'y a pas de financement, il n'y a pas de cotation des actes de génétique
moléculaire.
Mais
de façon très concrète, c'est l'examen à faire sur des maladies que vous n'arrivez pas à diagnostiquer avec les quelques examens que vous avez cités, c'est quoi? C'est le séquençage du génome?
Sinon de tous les gènes, du moins des gènes qui sont connue pour donner un symptôme. Mon enfant est retardé mental, je sais qu'il y a 250 gènes à tester. Mon enfant est épileptique, je sais qu'il a 80 gènes à tester.
Et alors, cet examen-là n'est pas remboursé par la Sécu.
Non, il n'est même pas coté.
Vous avez de quoi le faire.
On a inventé des outils qui permettent de porter ces diagnostics. Le défi n'est plus technique. Il est médico-économique, c'est comment financer et qui paye.
Et ça coûte combien vous donnez l'exemple, j'ai un enfant qui a un retard mental, on sait qu'il faut en gros examiner 250 gènes, ça coûte combien?
Vous allez sourire, le réactif coûte 130 euros. Vous rendez compte? Allez, on va doubler ou tripler pour prendre en charge les frais de fonctionnement de l'Institut Imagine, le personnel, allez on va dire 400 euros. Excusez-moi, c'est beaucoup d'argent, 400 euros. Mais c'est pas beaucoup, à l'aune de l'errance. Le nombre de journées que les parents...
Quand on pense au coût, par exemple, du traitement en ce moment de l'hépatite C, on n'est pas dans les mêmes tarifs, là.
Ou une journée de travail manquée, ou le voyage en train. 400 euros, 500, même si c'est 500 euros, demain, c'est accessible. Mais aujourd'hui, la puissance publique n'est pas capable, en France, dans un grand pays comme la France, d'accepter que ces actes doivent être cotés en...
Professeur Lachien, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, juste, je pense que je souscris à ce point qui est majeur dans la transition de l'activité de recherche à l'activité diagnostique et un point central de notre institut. Bon, je pense qu'avec le temps, les choses devraient se mettre en place, qu'il faut valider ces tests, mais enfin, c'est sûr qu'il y a une urgence. Il y a une vraie urgence diagnostique et Arnaud Munich le vit plus que moi tous les jours.
Et Arnaud Munich, justement, vous êtes dans le bureau de la ministre assez régulièrement pour la convaincre de rembourser ces... Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, j'imagine, pour que ce soit rentré dans les choses qui sont remboursées par la Sécurité sociale, non?
Écoutez,
ou au ministère des Finances, d'ailleurs, je ne sais pas.
Il y a eu un plan national maladies rares, un premier, puis un second, qui a financé, et on les en remercie, toutes sortes d'initiatives, comme les centres de référence maladies rares. Sur les 130, on en a une trentaine à Necker, à Imagine. Il a financé aussi des plateformes de technologie. Mais ce qu'il faut maintenant s'employer à faire, c'est diffuser ces outils et organiser l'offre de soins de manière équitable, de manière solidaire. Déjà dans l'Hexagone, et peut-être un jour, on en parlera tout à l'heure, en
Afrique. Avec le Sud.
Avec le Sud.
On a voulu voir justement comment ça se passait pour les patients. Donc, tout neuf, Mindy, notre reporter s'est rendu à l'Institut Imagine. Il a assisté à une consultation de Fanny, qui va avoir 6 ans dans quelques semaines. Fanny ne parle toujours pas. Elle a des difficultés pour marcher toute seule. Arnaud et Bénédicte Ratier, les parents de Fanny, étaient à l'Institut Imagine pour leur première consultation avec le docteur Nadia Bailly-Buisson, neuropédiatre et chercheur.
Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Fanny. Alors, allez-y, installez-vous.
Vous êtes Fanny, face à moi.
Et alors, donc, on est ici à Imagine. Alors, racontez-moi un petit peu la raison pour laquelle vous venez. Qu'est-ce qui pose un problème chez Fanny et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer ou prendre en charge?
L'histoire, c'est que aux alentours de 18 mois, Fanny ne marchait toujours pas. Elle parlait très très peu. Elle avait l'usage de ses mains. Et puis, on était un petit peu inquiets à cette époque-là. Et on est allé voir un pédiatre et puis surtout neurologue pour savoir s'il y avait des problèmes au niveau musculaire. Et puis dans ce schéma-là, pendant 6 mois, on a travaillé beaucoup la rééducation avec de la kiné. Et puis il n'y a pas eu beaucoup d'effets et donc on s'est orienté vers des analyses génétiques. On a fait un karyotype qui nous a amené le diagnostic un mois après, donc c'était 17 décembre, si je me souviens bien, c'était avant Noël. Et voilà, on nous a dit que Fanny avait le syndrome de Rett, donc une maladie polyhandicap. Voilà, et aujourd'hui, donc on voulait avoir aussi un peu un bilan complet, puis anticiper un peu les événements dans notre vie quotidienne. Voilà où on en est.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous avez à peu près compris ce que c'était que la maladie du syndrome de Rett, c'est-à-dire que votre petite fille aurait un polyhandicap, mais malgré tout qu'elle était capable de faire des progrès et qu'il y avait un certain nombre d'axes de stimulation qui seraient intéressants de développer avec elle. Et probablement, la première partie qu'on va essayer de développer ensemble, c'est essayer de voir si finalement tous les axes de rééducation qui ont été mis en place sont les bons pour Fanny.
Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il existe un tel service à Paris?
Ça nous a rassurés parce qu'on avait quand même fait le tour de pas mal d'hôpitaux. L'idée d'avoir un point d'entrée unique, centralisé, où on sent qu'il y a une maîtrise de cette maladie à tout point de vue et qu'il y a de la recherche et qu'il y a des formes d'espoir, ça nous a fait dire que voilà, ça nous rassurait sur l'avenir et qu'on n'irait qu'à cet endroit-là plutôt que de s'éparpiller pour nous parents et de aller dans plusieurs hôpitaux où vous rencontrez plusieurs médecins.
Voilà, c'est ça. cette globalisation un petit peu avec une information qui va être distillée un peu à chaque étape, ça nous aide et on sait que l'information est bien partagée autant entre les parents et les professionnels. C'est assez rassurant.
Alors, après, donc vous avez bien compris que le syndrome de Rett, c'est une maladie où il y a un polyhandicap, c'est aussi une maladie où il y a des complications. Et parmi les complications qu'on peut avoir, on peut avoir des troubles du sommeil. Est-ce que Fanny a des troubles du sommeil ?
Vous avez la particularité, en tout cas, d'être médecin et chercheur à la fois. En termes d'efficacité, c'est une chance pour Fanny ?
Je pense que c'est une chance pour Fanny d'avoir des médecins qui sont totalement dévolus à la recherche. Je pense que c'est une chance d'avoir des chercheurs et c'est une chance d'avoir des hybrides comme moi. Il faut avoir tout le monde. Parce que, par exemple, moi, je m'occupe pas du tout de la prise en charge de Fanny. Je peux être un sort de chef d'orchestre en disant, en fait, un peu plus de ci, un peu plus de ça, ou je donne un regard extérieur. Mais je suis pas le médecin qui a 100% s'occupe de sa rééducation. Moi, je peux donner un éclairage aux rééducateurs, je peux donner un éclairage aux chercheurs fondamentalistes pour que leur recherche ait un sens. C'est grâce à des personnes comme moi qu'on a pu dire que la souris reproduisait le phénotype, c'est parce que le chercheur, il a jamais vu de fille se frottant les mains. Donc, c'est une chance pour Fanny, c'est une chance, c'est certain, mais je pense que je ne suis qu'un maillon de la chaîne.
Allez, on y va.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons de l'Institut Imagine, un institut de recherche et de soins qui s'occupe de comprendre et de guérir les maladies génétiques. J'ai envie de vous faire réagir, professeur Alain Fischer, à ce reportage. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'Institut Imagine vous fait travailler ensemble des chercheurs, des soignants, des souris et des patients?
Très beau témoignage en tous les cas, et à la fois émouvant et juste. Je pense que les parents de Fanny ont très bien exprimé effectivement la nécessité de recueillir sur un lieu toutes les compétences, effectivement jusqu'aux petites souris si l'on veut, entre l'accueil des patients, mais un accueil ça veut dire une expertise autour des patients, et Madame Bailly-Buisson l'offre parfaitement pour le syndrome de Rett, et la capacité de communication immédiate qui est évidemment favorisée par l'unité de lieu avec le chercheur, et le fait que ces médecins, beaucoup d'entre eux, font partie des équipes de recherche, tous les jours interagissent avec les chercheurs qui sont dans leur laboratoire et font que on est probablement dans les meilleures conditions que l'on puisse espérer pour accélérer les connaissances et faire qu'un jour, des traitements, beaucoup plus de traitements, et il y a beaucoup de travail à faire, soient accessibles pour des patients atteints de maladies génétiques.
Professeur Arnaud Munich, justement, mais quel est le délai pour finalement avoir un rendez-vous à l'Institut Imagine ?
Ça dépend du degré d'urgence. Quand il y a une urgence, le délai c'est dans la semaine. Une dame qui découvre qu'elle est enceinte, qu'il faut prendre en charge tout de suite pour organiser le diagnostic et la prévention, elle est reçue dans la semaine. Si il n'y a pas une urgence, pour un premier rendez-vous, la vérité c'est que c'est de l'ordre de 3-4 mois. Mais on n'est pas rigide, hein, et s'il faut on accélère et on rajoute des consultations
avec des gens qui viennent d'un peu partout en France.
Les patients viennent de la région Île-de-France, mais du reste de la France et de l'étranger aussi, en particulier de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne ou continentale, qui viennent pour une expertise, comme l'a très bien dit Nadia, pour l'expertise diagnostique, mais aussi parce que c'est un centre de référence pour les premiers essais cliniques. Ce qui est important dans la consultation de Nadia, comme elle l'a dit, c'est non seulement d'avoir confirmé le diagnostic, mais ce centre de référence recrute pour un essai clinique. C'est quand même important d'assortir.
Et là, c'est une chance de rentrer dans un essai clinique.
Bah oui.
Ça peut permettre d'avoir finalement à disposition le plus tôt possible des traitements. On y revient, s'il vous voulez bien. Pardon, je vous ai coupé la parole. On y revient dans 3 minutes, juste après les informations. Vous nous parlerez alors peut-être justement de cet essai clinique. On se retrouve donc tout après les informations. Toujours pour parler de cet institut Imagine. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de participer au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages.
Priorité santé. Claire Hédon.
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'Institut Imagine, qui est situé au sein de l'hôpital Enfant Necker à Paris. C'est le plus grand pôle européen de recherche et de soins, qui a pour vocation de comprendre et de guérir les maladies génétiques. Alors, un an après son ouverture, quelles sont les avancées? C'est ce qu'on voit avec mes invités aujourd'hui. Le professeur Alain Fischer, qui est directeur de cet Institut Imagine, pédiatre et immunologiste, et le professeur Arnold Munich, qui est cofondateur de cet Institut Imagine, directeur du département de génétique au CHU Necker Enfants Malades. Et si vous avez envie, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Professeur Alain Fischer, dans la première partie, on a entendu une consultation avec une petite fille, Fanny, qui va avoir 6 ans, qui est atteinte d'un syndrome de Rett. Je dirais, qu'est-ce qui se passe après? Alors, on l'a compris, l'enfant, du coup, est pris en charge dans sa globalité. Le papa l'a dit, c'est un grand soulagement. Mais il se passe quoi après, finalement, dans la chaîne avec les chercheurs?
Alors, il y a une très longue succession d'événements, de travaux, qui doivent être menés pour aboutir, évidemment, à des degrés divers de connaissances aujourd'hui, à la compréhension, diagnostic, à la compréhension des maladies et au traitement. Je vais prendre un exemple. Nous avons parmi nous un merveilleux chercheur britannique qui s'appelle Yannick Crowe, qui est arrivé à Imagine il y a un peu plus d'un an. Il a décrit les mécanismes d'une maladie qui crée une inflammation très sévère du cerveau, y compris chez des bébés. Une maladie qui initialement d'ailleurs avait été mentionnée par des médecins qui travaillaient à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui s'appelait docteur Ecardi et Gouttière. Donc il reçoit les malades lui-même. Il reçoit les malades, il apprécie si les symptômes conviennent pour apporter ce type de diagnostic. Il a mis au point les tests biologiques qui permettent de confirmer le diagnostic. Il a mis au point les tests génétiques qui permettent de préciser si tel ou tel des gènes mutés dans ces pathologies le sont. Et s'ils ne le sont pas, il entreprend un projet de recherche pour chercher d'autres anomalies correspondant à ces symptômes. Il a toujours, lui, en tant que chercheur dans son laboratoire, dans les étages au-dessus de la consultation, il travaille à comprendre les mécanismes par lesquels une inflammation excessive du cerveau donc, provoque malheureusement des troubles sévères du système nerveux, et grâce à cela, en ce moment, il a des recherches qu'il mène pour développer de nouveaux traitements, alors qu'il n'y avait pas du tout de traitement de cette maladie, et des traitements qui sont susceptibles d'améliorer, au moins en partie, la situation de ces enfants, et des premiers essais cliniques commencent. Vous voyez, lui-même et son équipe sont à la tête d'une chaîne d'événements qui, malheureusement, s'échelonne dans le temps sur des années, mais c'est le parcours que nous essayons tous de faire sur un grand nombre de maladies génétiques pour faire progresser les connaissances vers les traitements.
Alors, nouveaux traitements, vous l'avez évoqué, ça veut dire essais cliniques. Comme ce sont des maladies rares, il faut, entre guillemets, faire entrer suffisamment de patients dans l'essai clinique.
Oui, bien que naturellement, ces essais cliniques ne sont pas de même nature que ceux que l'on réalise dans le domaine des maladies courantes. Il y a des procédures particulières pour les maladies rares, mais effectivement, il y a des essais faits sur des petits nombres de malades. Cela dépend des situations, cela dépend des thérapeutiques, cela dépend du degré d'avancement, si on est aux tout premiers essais ou si on a une phase ultérieure. Donc il y a des points communs avec les essais cliniques effectués en médecine en général. Il y a la même rigueur de procédure, la même éthique autour de la réalisation de ces essais et des adaptations liées aux petits nombres de malades.
Les parents réagissent quand on leur dit il y aurait possibilité pour votre enfant de rentrer, parce que c'est souvent des maladies qui touchent les enfants, de rentrer dans un essai clinique.
Les parents sont enthousiastes et les premiers supporters de ces tentatives pour des raisons qui sont absolument évidentes. Ils viennent avec de l'espoir. Parfois, il arrive que on les déçoive parce que nous n'avons pas de thérapeutique à leur proposer. Lorsqu'on peut leur dire au moins, écoutez, nous avons identifié la cause de la maladie de votre enfant et nous pouvons vous offrir la possibilité que votre enfant participe à une recherche clinique pour savoir si telle ou telle nouvelle molécule ou cellule, peu importe, est susceptible d'apporter un progrès, naturellement, ils sont les premiers partants. À nous d'être prudents, raisonnables, de ne pas créer de faux espoirs et de dire les choses avec toute l'honnêteté nécessaire, ce qui n'est pas toujours si simple, mais c'est essentiel.
Parce que vous aussi, vous êtes enthousiaste de votre côté.
Nous sommes enthousiastes, mais nous avons envie de plus fort d'entre nous-mêmes que les choses avancent, mais il y a aussi des échecs, donc il faut être prudent.
Si vous voulez bien, on retrouve tout neuf Mandy à l'Institut Imagine. Zoom sur l'unité ventilation non-invasive et du sommeil, car parmi les complications possibles de la maladie du syndrome de Rett qu'on a vu tout à l'heure avec Fanny, elle peut avoir aussi des troubles du sommeil. Visite guidée du laboratoire du sommeil avec le professeur Brigitte Fauroux, qui est pneumopédiatre à l'hôpital Necker.
Alors ici, on a donc le laboratoire qui permet donc de faire l'analyse de tous les enregistrements qui ont été faits, à la fois les enregistrements qui ont été faits dans les trois chambres qui se trouvent au bout ici de ce couloir. Et par exemple, pour vous montrer, vous voyez ici un écran où on voit l'enregistrement d'un enfant avec également la caméra vidéo qui monitore et qui filme en même temps l'enfant pendant la nuit pour qu'on puisse interpréter au mieux les anomalies éventuelles qu'on pourrait observer sur un tracé. Donc nous avons une prise en charge globale, c'est qu'on va mettre en place donc une consultation multidisciplinaire spécialisée sur le sommeil, où les enfants sont vus par un médecin et un neuropsychologue pour en fait faire une évaluation bien précise des troubles respiratoires du sommeil. Ils sont également parallèlement explorés avec un enregistrement polysomnographique nocturne dans l'unité au moment de ces consultations ou au moment des bilans. Et ensuite, en fonction des troubles qu'on détecte, on met en place des thérapeutiques spécifiques adaptées qui sont différentes en fonction des troubles respiratoires du sommeil que peuvent présenter les enfants.
Bonjour, je suis Elisabeth, je suis parent d'une enfant polyhandicapée et également à l'écoute des familles.
Vous avez donc rencontré Arnaud et Bénédicte, les parents de Fanny, ils sont passés par vous ?
Tout à fait, Arnaud, quand il a eu le diagnostic de sa fille, m'avait téléphoné et ça a été le premier lien qui a été effectué. Voilà, j'ai longuement discuté avec Arnaud, ça m'avait d'autant plus déstabilisé que c'était un des premiers papas qui m'appelait. Généralement, ce sont plutôt les mamans qui téléphonent. C'est des moments qui sont douloureux pour les familles, ils doivent être entendus, écoutés, et moi j'essaye de faire le lien ensuite avec les associations qui pourraient correspondre à la pathologie qui vient d'être diagnostiquée chez leur enfant.
Une sorte de soutien psychologique.
Exactement, je pense que les personnes qui sont les plus à même de pouvoir comprendre, ce sont les parents qui ont déjà vécu cette situation. Moi, c'était il y a plus de 10 ans, donc j'ai un recul de 10 ans. Et je peux comprendre et ressentir ce que ressentent les parents sans les juger, sans les faire culpabiliser et les orienter le mieux que je peux vers des associations qu'ils appelleront d'ailleurs quand ils le souhaiteront. Rien ne les oblige à le faire tout de suite après le diagnostic. Ils peuvent attendre. Généralement, ça mûrit quelques semaines.
Professeur Arnold Munich, justement une réaction par rapport à ce reportage à l'Institut Imagine.
Mais je trouve que de notre échange et de ces interviews ressort vraiment l'originalité d'Imagine. Et l'originalité d'Imagine, c'est la cohérence du projet.
C'est entre la recherche et le soin.
Offrir le meilleur de la médecine d'aujourd'hui, y compris la prise en compte des symptômes, parce que c'est une très bonne idée d'avoir rendu visite à Brigitte Fourreau, parce que elle n'est pas en train de soigner le syndrome de Rett, mais elle prend en compte les symptômes du syndrome de Rett, les troubles du sommeil, les troubles ventilatoires. Ben, c'est embêtant d'avoir des troubles comme ça. Et si on peut y remédier sans forcément traiter la cause, c'est déjà pas mal.
C'est ça, parce qu'en fait, on a très peu de traitements sur ces maladies génétiques rares. Par contre, ça n'empêche pas de prendre en charge les symptômes.
C'est ça. Et ce qui me plaît infiniment dans ce projet Imagine, c'est la cohérence de l'ensemble. C'est ça la différence. Si vous demandez, est-ce que vous connaissez un autre Imagine au monde ? Je vous dis non, je connais pas un autre Imagine au monde. Un projet où on a, de manière volontariste, essayé de mettre ensemble tous les protagonistes d'un projet qui est d'améliorer la vie de l'enfant, en offrant la meilleure médecine d'aujourd'hui et en inventant la médecine de demain.
Et en donnant aussi des adresses d'associations de patients d'ailleurs.
Tout à fait. Mais pour inventer la médecine de demain, on revient à votre première question de tout à l'heure, encore faut-il avoir des diagnostics. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Il y a peut-être déjà des essais cliniques pour le syndrome de Rett, et on n'a pas les diagnostics des enfants qui ont le syndrome de Rett. Donc vous voyez la cohérence du projet, il faut arriver à un diagnostic, c'est ça qui donne accès aux essais cliniques, et c'est ça qui va permettre d'inventer la médecine. Alors,
justement, on revient sur ces histoires de diagnostics. On l'a très bien compris dans le témoignage de départ, il faut très souvent beaucoup de temps d'avoir un diagnostic et tomber au bon endroit. Une fois qu'il y a l'annonce du diagnostic, j'imagine que le sentiment des parents est très partagé entre un soulagement, on met un nom sur une maladie, et aussi l'effroi de l'ampleur de la maladie.
C'est jamais de l'effroi, c'est toujours une délivrance que de savoir enfin de quoi il retourne. On surmonte les épreuves qui nous frappent par la pensée. Il faut donner, quand on le peut, la possibilité aux parents, au sujet, de penser. P-E-N, hein, pour penser, P-A-N. Pour penser la blessure, il faut pouvoir penser le problème. C'est comme ça qu'on surmonte les épreuves, en les pensant, en les imaginant. Et ça, je dirais que c'est toujours un cadeau. Et deuxième chose, qu'on s'évertue à dire aux familles et à enseigner aux médecins, c'est attention, un diagnostic, c'est pas un pronostic. Le diagnostic, c'est une chose, le pronostic en est une autre. Un diagnostic aujourd'hui ne dicte pas le pronostic comme jadis. Un diagnostic d'aujourd'hui peut être compatible avec une longue survie. Regardez la mucoviscidose. Quand on était interne, Alain et moi, l'espérance de vie de la mucoviscidose, c'était pas très long. Aujourd'hui, nous, on les voit en consultation pour des projets d'enfants. Ils sont parents à leur tour. Donc, un diagnostic, le diagnostic est toujours le même, mais le pronostic a été transformé par la prise en compte des symptômes.
Professeur Ouedraogo, vous
voulez juste ajouter un mot sur un élément qui a été évoqué dans le reportage, qui est la place des familles, des associations de parents et des familles en général. Et clairement, au sein de l'Institut, comme d'autres, nous essayons de privilégier les interactions par interaction. C'est vraiment l'interaction très forte de travail ensemble. Ça a été très très bien illustré à travers l'exemple de la consultation auprès de Brigitte Fouroux. C'est que ces associations jouent un rôle très important parce qu'elles connaissent les maladies et qu'elles sont susceptibles d'apporter un relais, une espèce d'intermédiaire entre le monde médical de la recherche et le monde des familles, des parents, des enfants nouvellement diagnostiqués. Donc ils ont une place très importante dans cette espèce de trio entre le monde médical de la recherche, le monde des malades, ce monde associatif et clé.
De façon très concrète, donc vous avez ouvert vos portes il y a un an, hein, vous allez fêter les un an tout prochainement, le ministre de la Santé d'ailleurs je crois doit devenir dans votre institut. Pas mal de vous-même, vous travaillez tous les deux déjà à Necker. Il y avait beaucoup de choses qui se retrouvent dans cet institut, imagine, existaient déjà à Necker. Qu'est-ce qui change d'être dans le même bâtiment?
Tout. Presque tout. Naturellement, nous existions avant, et si nous n'avions pas existé avant, il n'y aurait pas eu d'institut, imagine. Mais le fantastique progrès, c'est le fait d'avoir créé ce bâtiment où nous, comme nous l'avons déjà dit, nous regroupons toutes ces compétences et toutes ces personnes qui se parlent en permanence. Le laboratoire d'Arnold Munich était situé à peu près à 100 mètres du laboratoire dont je m'occupais. Évidemment, nous nous connaissions. Les jeunes médecins, les jeunes chercheurs, les étudiants, etc., qui travaillaient dans nos laboratoires, se connaissaient à peine, ne se parlaient pas. Aujourd'hui, ils se parlent en permanence. Ils prennent le café ensemble, ils mangent un sandwich à midi ensemble. Ils travaillent
et
ensemble.
Et ça peut faire avancer
la recherche. Ça qui fait avancer la recherche. C'est l'enrichissement mutuel entre des personnes qui ont des projets de recherche ou des problématiques médicales parallèles, mais qui ne se rejoignent pas forcément si on ne les met pas ensemble. Donc ça, c'est le premier des progrès et qui est susceptible de catalyser de façon très, très, très significative nos capacités. Et puis aussi, c'est avoir des conditions de travail infiniment plus agréables qui permettent d'accueillir de nouvelles équipes. Je mentionnais tout à l'heure le nom de Yannick Rowe, qui est un merveilleux chercheur britannique que nous avons pu accueillir grâce à cela. Nous avons des outils de travail, que ce soit pour séquencer les gènes ou pour organiser des essais cliniques qui sont adaptés au monde moderne. Donc c'est vraiment une rupture entre ce qu'a été le passé, aussi fructueux qu'il a pu être, et cette situation tout à fait optimale, presque optimale.
Vous accueillez effectivement des chercheurs étrangers. Quels sont les liens que vous avez aussi avec les chercheurs ailleurs dans le monde ?
Alors la notion d'accueil et d'ouverture est majeure. Il y a des personnes de plus de 20 nationalités qui travaillent à Imagine et du monde entier, c'est-à-dire pas uniquement l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon ou l'Australie, aussi des pays du Sud. Et là, sur cet aspect, la formation de jeunes médecins, de jeunes chercheurs est essentielle. Et nous essayons de développer cette dimension. Nous avons des programmes spécifiques de formation scientifique et de formation médicale. À côté de cela, naturellement, il y a énormément de projets de collaboration. Nous ne sommes pas un petit monde refermé sur nous-mêmes. Nous travaillons tous les jours intensément avec un très grand nombre d'équipes de par le monde, à travers des réseaux de recherche, des réseaux de soins autour des essais cliniques, par exemple, avec des collègues à peu près dans tous les continents.
Et vous travaillez aussi avec l'industrie pharmaceutique.
Et naturellement, qui dit développement de nouveaux médicaments dit intervention de l'industrie pharmaceutique, qui doit prendre le relais ou apporter de temps en temps des possibilités de traitement pour ces maladies. Donc cette interaction est indispensable, elle doit se faire dans des conditions qui sont tout à fait définies sur le plan éthique, mais elle est indispensable au développement de nouveaux traitements.
Professeur Arnold Munich, les patients qui viennent vous voir, les enfants qui viennent vous voir, ressortent-ils toujours avec un diagnostic ou il y a encore des maladies qu'on n'a pas diagnostiquées, qu'on ne connaît pas?
Quand on a ouvert l'Institut, 70% des enfants qui entraient ressortaient sans diagnostic.
70% ressortaient sans diagnostic.
Et a fortiori sans traitement. 70%. La discipline la plus en avant, c'est celle qui concerne les maladies du sang et les déficits immunitaires, où là, ils ont un diagnostic et un traitement. Mais pour tout le reste, les anomalies du développement ou les maladies neurologiques, vraiment, vraiment, on n'avait ni diagnostic, ni a fortiori traitement. Avec l'Institut, un an après, on voit se profiler un avenir meilleur, pas seulement pour les enfants qui viennent à Necker et à l'Imagine, pour l'ensemble de l'Hexagone et peut-être au-delà. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à transformer l'essai, pas au plan scientifique seulement, mais au plan médico-économique, je crois qu'on va inverser le rapport.
Mais ça, un an après, vous avez le pourcentage pour savoir si ça a changé ou c'est encore un peu trop tôt?
Je vais vous dire, ça dépend des maladies. Ça dépend des maladies. Pour une maladie rénale, aujourd'hui, c'est 85% des diagnostics qui sont faits. Pour les maladies oculaires, c'est 60%. Pour les retards de croissance, l'énanisme, c'est 50%. Pour les épilepsies, c'est 40%. Pour les retards mentaux, c'est 20%. Donc, vous voyez, tout dépend. Et c'est 100% pour les déficits immunitaires, ou presque.
Ah, tout à fait.
Presque. Mais, si vous voulez, quand, si on veut, on peut. C'est ça, la message. Si on veut, on peut.
Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, Arnaud Munich, ces examens, ces diagnostics, ces tests de diagnostic coûtent cher. Comment vous faites quand vous avez en face de vous des familles qui ne peuvent pas payer le diagnostic? Puis c'est compliqué aussi quand on vient d'un peu plus loin, et pas simplement de région parisienne, de passer quelques jours à l'hôpital. Où est-ce qu'on se loge près de son enfant? Comment vous faites sur ces questions-là? Parce que ça vous préoccupe. Vous n'êtes pas chercheur dans votre tour d'ivoire.
C'est un souci constant. Et on n'oublie pas, Alain et moi, qu'on est ici à RFI. Et donc, on veut surtout pas paraître un institut égoïste, une tour d'ivoire de privilégiés. On déteste ça. C'est pas ça, notre idée. Notre idée, c'est celle du partage. On a beaucoup reçu. À nous de donner beaucoup. Donc, et pas seulement dans l'Hexagone, peut-être qu'on en parlera à la fin, mais dans l'Hexagone et pour la région Île-de-France, c'est un véritable défi. Le défi, c'est d'amener les techniques de la science à l'hôpital, dans un contexte contraint. Je vous rappelle que le budget, le déficit du régime de la sécurité sociale est quand même important. Et aujourd'hui, on en est plus davantage à des contraintes budgétaires qu'à des...
À des remboursés, qu'à rajouter des remboursements.
Donc, c'est très difficile. Et je pense qu'on peut y arriver en mutualisant les efforts. Il y a des marges à faire dans la mutualisation des forces dans les périmètres des hôpitaux. Je crois qu'il faut qu'on travaille plus ensemble. Il faut réduire les charges de personnel. C'est pas les réactifs qui comptent cher. Je vous ai dit 120€ pour un test. Ce qui va coûter cher, ça sera de mettre en commun nos moyens dans le périmètre d'une université. Et au fond, c'est de ça que je rêve. C'est que on ait un grand programme intelligent où, dans le périmètre d'une université, on puisse mutualiser les ressources hospitalières.
Professeur Lafcher, deux questions par rapport à ça. La question de votre budget, il vient d'où, votre budget? Parce que je crois que vous cherchez aussi des financements privés.
Ben oui, parce que notamment pour pouvoir développer ces moyens diagnostiques et puis aussi, d'une manière générale, soutenir l'ensemble de nos missions et de nos missions de recherche et de formation, dont j'ai dit un mot rapide tout à l'heure.
Donc une grande partie de votre budget, c'est la PHP, en fait, les hôpitaux publics.
Alors,
de Paris.
Alors, nous avons plusieurs sources de financement public. L'assistance publique des hôpitaux de Paris est un. L'INSERM est une source très importante de financement de la recherche. L'INSERM emploie une centaine de personnes qui travaillent dans notre institut, notre université. Et puis aussi, nous bénéficions depuis maintenant 5 ans du soutien des investissements d'avenir à travers l'appel de candidature pour Institut Hospitalo-Universitaire. Donc ceci représente une masse d'argent public très importante. Donc notre responsabilité, c'est évidemment de l'utiliser à bon escient et de façon très légitime, nous sommes évalués pour cela. Mais cela ne suffit pas pour pouvoir aller au bout de nos ambitions et naturellement, nous cherchons encore une fois à faire au plus vite le mieux. Donc, les financements complémentaires peuvent dépendre de contrats industriels, nous l'avons évoqué dans les progrès des diagnostics ou des thérapeutiques, et aussi du mécénat. Ce mécénat est essentiel, il a déjà fait ses preuves pour nous aider notamment à monter un centre de séminaire, un lieu de formation tout à fait adéquat, et il est essentiel pour mener à bien l'ensemble de nos missions.
Arnaud Munich, on arrive vraiment à la fin de cette émission, parce que je voudrais qu'on parle de l'épidémie de rougeole en RDC. Vous l'avez dit, vous avez aussi envie de faire le lien avec le Sud, c'est justement entre autres via la formation que le lien avec le Sud peut se faire.
Oui, je pense vraiment que cette obsession du partage est présente à nos esprits en permanence. Nous accueillons des étudiants d'Afrique du Nord, donc nous avons une vocation de formation, nous voudrions l'étendre à la formation des élites d'Afrique centrale et d'Afrique
de l'Ouest.
De l'Ouest. Je crois que ça fait partie de nos projets, si on en a les moyens. Il y a un autre projet que nous avons, c'est d'accueillir dans la filière LMD, vous savez, licence, maîtrise, doctorat, il y a un parcours professionnel qu'on appelle les conseillères et conseillers en génétique. Nous souhaiterions accueillir des conseillères et conseillers en génétique pour les former à la prévention des maladies génétiques en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. C'est accessible, ce n'est pas très cher, ça rapporte énormément, et sur le modèle de ce qui s'est passé pour le sida de l'enfant, qui a été un modèle magnifique de transfert de compétences nord-sud, je crois qu'on devrait pouvoir, on doit pouvoir organiser des consultations ou des formations avancées de manière à donner à l'Afrique du Nord, à l'Afrique de l'Ouest, les moyens de l'autonomie dont elle est capable. L'Afrique a le droit et le devoir de rêver aussi, comme nous, des lendemains meilleurs.
Merci, professeur Munich et professeur Fischer. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'épidémie de rougeole dans le Katanga en RDC.
Priorité santé sur RFI.
Jean-Guy Watteau, bonjour. Jean-Guy
Bonjour.
Watteau, bonjour. Vous êtes chef de mission MSF Médecins Sans Frontières en RDC. Vous allez nous parler d'une épidémie de rougeole dans le Katanga en RDC. Quelle est l'ampleur de cette épidémie?
Alors, depuis le début de l'année, il y a une douzaine de zones de santé qui ont déclaré des cas de rougeole et qui sont en situation épidémique. La plupart sont au centre Katanga. Et au total, depuis le mois de mai, il y a plus de 1000 cas par semaine déclarés par les centres de santé au Katanga. Donc l'ampleur, plus de 1000 cas par semaine, c'est du jamais vu depuis la grande épidémie de 2011.
Donc c'est une grande épidémie avec un taux de mortalité ou en tout cas de complications élevé.
Tout à fait. Dans cette région du Katanga, qui est une région assez enclavée et qui subit des crises économiques à répétition, il y a un terrain de malnutrition chronique assez important. Il y a également des influences du paludisme, notamment pour les enfants, qui sont très forts. Et sur ces terrains-là, la rougeole est une maladie extrêmement mortelle. On ne dispose pas de chiffres vraiment fiables de la mortalité dans les communautés de la rougeole, mais on estime qu'elle doit être très importante vu ce terrain assez défavorable et ses enfants affaiblis.
Jean-Guy Watteau, cette épidémie, elle montre que les campagnes de vaccination ne touchent pas tout le monde, entre autres les plus exclus, ceux qui vivent dans les zones reculées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui?
Alors cette zone, je le disais, est très enclavée. Il y a des infrastructures routières déficientes, en mauvais état, un approvisionnement en électricité quasi inexistant. Et donc tout effort de vaccination, que ce soit de la vaccination de routine ou de la vaccination de riposte, comme il est nécessaire aujourd'hui, est extrêmement lourd et extrêmement cher à mettre en œuvre. On en a, nous, l'expérience sur les projets réguliers, mais également lors des ripostes de la grande épidémie de 2011, ou ce qu'on vient de faire à Malembankoulou, où on a vacciné plus de 100 000 enfants. C'est extrêmement lourd à mettre en œuvre. Donc on demande, pour appuyer les autorités de santé qui sont engagées face à ces épidémies, à ce que d'autres acteurs, ONG ou donneurs, s'investissent pour lutter contre cette épidémie de rougeole, car aujourd'hui les moyens disponibles ne seront pas suffisants pour endiguer ces épidémies.
Et le message à la population, c'est faites vacciner vos enfants?
Oui, ce message, on le fait passer de manière très active pour éviter les malentendus. Certaines vaccinations dans certains endroits ont mauvaise réputation, mais quand on fait une communication suffisante, la population amène ses enfants. On l'a vu à Malembankoulou, notre taux de couverture de notre vaccination rougeole a été excellent. Mais oui, la communication est un élément très important.
Merci beaucoup Jean-Guy Watteau de nous avoir alerté sur cette épidémie de rougeole dans le Katanga en RDC. Vous nous tiendrez au courant. Une réaction, professeur Alain Fischer, d'où l'importance de la vaccination, chose de base.
C'est absolument dramatique d'entendre de telles tragédies alors qu'il s'agit d'une maladie virale pour laquelle il existe un vaccin efficace. Naturellement, et notre collègue l'a très bien évoqué, vacciner des populations dans des lieux relativement retranchés et où les chaînes du froid sont difficiles à construire est un enjeu délicat, mais des gens de cette nature s'y attellent très 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 bien, mais d'une manière générale, c'est l'occasion de rappeler quand même que la vaccination a sauvé des centaines de millions de personnes dans le monde, je dis bien des centaines de millions. C'est certainement la mesure en santé la plus importante qui n'ait jamais eu lieu au cours du 19e et surtout du 20e siècle et bien sûr du 21e siècle. Et prendre prétexte ou telle lubie ou de vagues effets indésirables pour refuser la vaccination est juste inacceptable. Le taux de couverture de la vaccination contre la rougeole est en train de baisser en France. Il n'est plus que de 89%. Ceci est inacceptable.
On revoit des cas de rougeole
ou d'autres maladies infectieuses qui avaient disparu. Il faut se battre tous les jours par l'information, une information naturellement honnête, pour défendre et développer la vaccination systématique en France, en Europe et dans tout le monde, bien sûr.
Je suis désolée, on devait donner la parole à Stéphane Besançon. Je me suis, moi, laissé prendre par le temps pour la chronique nutrition. Mais Stéphane, je sais que vous êtes en ligne avec nous. On va vous retrouver mercredi dans une émission sur les questions du ramadan et comment avoir une alimentation équilibrée pendant le ramadan. Et d'ailleurs, demain, on parlera même des précautions à prendre quand on est malade pour suivre le ramadan. Professeur Lafier, j'aurais juste, il nous reste moins d'une minute, une dernière question à vous poser. Si je vous demandais en un an, quelle a été la découverte importante de l'Institut Imagine, je vais me dire, oh là là, la question, je réponds quoi? Il y en a eu plusieurs.
Mais je dirais, et je vais faire plaisir à mon collègue Arnold qui est en face, parce qu'il en est l'acteur principal. C'est pas une découverte, mais c'est la mise en place d'un outil diagnostique à travers l'analyse des gènes qui a permis d'apporter des solutions diagnostiques, pour l'instant, à un très grand nombre de patients. Et ça, c'est le travail d'Arnold. C'est peut-être l'avancée la plus forte parce qu'elle est exactement à la frontière entre le monde de la recherche et le monde des patients. Elle n'est pas scientifiquement spectaculaire, elle est pratiquement, sur le plan médical, sur le plan de l'avancée de la prise en charge des patients, clé.
Absolument clé. Et alors, sur le reste des avancées, c'est plutôt que vous en êtes pour beaucoup à la phase d'essai clinique. Donc, absolument. On ne peut pas encore dire on a trouvé le traitement de telle pathologie, c'est ça?
Non, vous ne me ferez pas dire ça, c'est évident. Il faut beaucoup d'efforts et, encore une fois, beaucoup d'échecs avant de pouvoir dire qu'une fois de temps en temps, il y a une avancée réelle.
Merci vraiment beaucoup à tous les deux d'être venus pour nous parler de cet institut Imagine qui fête donc ses un an et qui est situé à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et comme je vous l'ai dit, demain, on va parler des précautions à prendre quand on est malade et entre autres quand on est diabétique et qu'on veut suivre le ramadan, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.